Voix Nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Evelyne Ayer, professeure en anthropologie génétique.
Troisième épisode, mais qui est Sapiens ? Bonsoir Evelyne Ayer.
Bonsoir.
Hier, pour le deuxième épisode, vous nous avez montré à travers différents sujets et objets d'études en quoi la culture influe sur nos gènes. J'aimerais ce soir que vous nous expliquiez ce qu'ont permis de comprendre les découvertes génétiques récentes, surtout sur l'évolution de l'homme. Alors l'homme avec un grand H, on va l'appeler l'humain d'ailleurs, je pense, au cours de cette émission, si on fait attention. Et ses caractéristiques. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des humains et plus des chimpanzés, mais qu'est-ce qui nous rapproche? Et puis d'où on vient, évidemment, avec les espèces humaines que nous avons, que vous avez, chercheurs, découvertes ces dernières années. Alors déjà, on a longtemps appris à l'école que l'homme, l'être humain, descendait du singe.
Oui,
et
c'est vrai.
Pascal Pic, par exemple, dit que non, on ne descend pas du tout du singe, c'est pas vrai du tout, on ne descend pas du singe, on est des singes, mais pas n'importe lesquels.
Tout à fait, on fait partie du groupe des primates, en fait. Donc on distingue les humains et les primates non humains. Dans les primates non humains, vous avez le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan, etc. Et notre plus proche cousin dans cette grande famille, c'est la branche des chimpanzés et bonobos. Et ça marche dans les deux sens, hein. Les plus proches cousins des chimpanzés et bonobos, ce sont les humains et non pas les gorilles, hein. Comme on a souvent l'image, on va avoir tendance à les associer, mais en fait pas du tout. Donc cousins plus éloignés, donc ce sont les gorilles, et la génétique, elle a permis, je dirais, d'affiner ça, notamment par exemple en permettant de dater à peu près de quand date l'ancêtre commun aux humains et aux chimpanzés, environ 7 millions d'années. Donc pareil, on descend pas non plus des chimpanzés. Les chimpanzés sont nos cousins. D'ailleurs, l'ancêtre commun aux humains et aux chimpanzés, c'est le fruit de pas mal de recherches à l'heure actuelle. Il est entre les deux, quoi. C'est pas un chimpanzé, l'ancêtre commun.
Alors que par exemple, l'orang-outan et l'homme se sont séparés il y a 13-15 millions d'années.
Oui, c'est plus ancien.
C'est beaucoup
plus
ancien.
Éloigné comme cousin.
Donc ça veut dire que quand vous dites on est cousins, ou nos plus proches cousins sont les chimpanzés, ça se traduit comment génétiquement ?
Alors génétiquement, ça se traduit avec 1% de différence dans l'ADN.
Mais non, c'est rien du tout.
Vrai. Ouais, c'est rien du tout. En fait, 1,2, etc. C'est-à-dire que si vous alignez d'un ADN d'un humain avec celui d'un chimpanzé, et si vous comptez le nombre de différences, vous allez avoir 1,2... selon les calculs, différence entre un humain et un chimpanzé. Donc environ 1%.
Enfin, pas avec... Oui, 1%. Ça fait 35 ouais. millions de différences.
C'est ça.
Hein,
c'est
quand
ça.
Même. Donc c'est pas rien, en fait.
En fait, ça permet de faire suffisamment de différences pour qu'on soit des humains et pas
des
chimpanzés.
Et pas des chimpanzés, en
voilà.
l'occurrence. Bon, ça, c'est la séparation de l'humain d'avec le singe. Maintenant, on a établi qu'il existe différents types d'humains cousins. C'est-à-dire que nous venons de Néandertal, nous sommes des sapiens, nous venons de Néandertal, mais nous avons aussi découvert l'homme de Flores.
On vient pas de Néandertal, on est cousins de Néandertal.
On est cousins de Néandertal, vous voyez, je dis moi-même des bêtises, comme je dis qu'on descend du singe. Non, nous sommes cousins de Néandertal, nous sommes des sapiens, nous avons découvert l'homme de Flores et l'homme de Denisova. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer tous ces hommes?
Oui, c'est rigolo. Oui, alors, grosso modo, notre cousin le plus proche dans cette histoire-là, c'est Néandertal et Denisova. C'est-à-dire, on se sépare de ce qui va devenir Néandertal et Denisova il y a 600 000 ans. Donc, c'est plus proche que les 6 millions d'années du chimpanzé, hein. Et Néandertal et Denisova...
7 millions d'années.
Voilà, 7 millions d'années. Donc, Néandertal et Denisova, eux, ils sont cousins à seulement environ 400 000 ans. Donc ils sont voilà. Donc on a une branche. Et alors Flores, on ne sait pas.
Flores, donc, il aurait 50 000 ans. Hein.
Oui, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir de quand date l'ancêtre commun, c'est-à-dire.
Celui-là, on l'a toujours pas vraiment trouvé.
Non, parce qu'on n'a pas pu faire l'ADN, parce que Flores, c'est le hobbit de la préhistoire, hein, il fait 1m10, et il vit dans des zones tropicales, et dans des zones tropicales, on a des difficultés à avoir de l'ADN.
On revient à l'émission précédente, quand je vous demandais combien de temps dure un ADN fiable, là, quand même, l'ADN est trop abîmé pour le être lisible, c'est ça ?
Il y a plusieurs équipes qui ont essayé. Pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. On a hâte qu'il y ait une équipe qui arrive, parce qu'on aimerait bien savoir dans quelle mesure c'est un cousin très éloigné ou pas, cet homme de Flores. Et à peu près à la même époque, il y a 50 000 ans, il y avait aussi l'homme de Luzon, qui a été trouvé par un collègue du Musée de l'Homme, il y a 2-3 ans, et qui, lui, donc, vivait aux Philippines à peu près au même moment. Donc, vous voyez, on a encore des choses. Et lui, alors, on n'a pas du tout d'ADN.
Mais donc, on ne sait pas encore vraiment quel lien tous ces types d'hommes anciens ont entre eux.
On sait très bien.
À part Néandertal.
Voilà.
On sait qu'on a 2% de Néandertal dans notre ADN.
Bon. On a Sapiens, Néandertal, Denisova, on connaît bien. Après, les autres, ben non, on n'a pas d'ADN, donc on ne connaît pas.
Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à découvrir ? Qu'est-ce que vous rêveriez justement qu'on arrive à découvrir ce fameux ancêtre commun ?
Là, moi, ce qui me plairait beaucoup, ce serait de savoir, par exemple, l'homme de Flores, d'où il vient.
Ça, on va le savoir. On va faire.
J'espère qu'on va arriver à le savoir. Et puis d'autres choses qui seraient super intéressantes avec donc là les techniques, on va dire, de paléogénétique, c'est-à-dire vraiment d'extraire l'ADN de restes qui ont disparu. Ce serait bien si on arrivait à travailler dans les zones tropicales. Et il y a peut-être des nouveautés technologiques qui vont émerger, qui vont peut-être un jour nous permettre d'arriver à avoir de l'ADN aussi dans ces zones tropicales. Ce serait fascinant parce que pour l'instant, on a l'idée de notre espèce. Ok, nous, on vient d'Afrique. En Afrique, on a des restes qui ressemblent à des sapiens en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Mais on n'a rien en Afrique centrale. Parce que c'est des zones où ça se conserve pas bien et on aimerait bien en savoir un peu plus.
Oui,
quoi.
Si ça se trouve, on n'est pas à l'abri de découvertes majeures qui viendraient révolutionner les connaissances d'aujourd'hui.
Oui, alors dans une certaine mesure, parce que par contre, avec la génétique, ce qui est sûr et bien établi, c'est qu'on vient d'Afrique. C'est-à-dire que notre espèce sapiens, elle émerge il y a environ 300 000 ans en Afrique, et il y a une sortie d'Afrique qui va permettre de coloniser la planète il y a environ 60-70 000 ans. Donc ça, je pense pas que ça va changer.
Ça, c'est indéniable.
Voilà, on voit maintenant des allers-retours, des petits détails, mais ça, je pense pas que ça va changer.
Alors arrêtons-nous, Elvin Leyer, si vous le voulez bien, un petit temps sur Néandertal et un petit temps sur Denisova, puisqu'on les connaît un peu mieux que les autres. Donc de Néandertal, on sait que Sapiens partage avec lui 2% d'ADN. Ça veut dire quoi, en fait, qu'on a 2% dans notre ADN de Néandertal ?
En fait, ça veut dire qu'il y a eu des croisements qui ont eu des descendants fertiles. Ça veut dire que Sapiens, quand il est sorti d'Afrique, il est arrivé en Eurasie, et là, il a rencontré Néandertal, qui, lui, était issu de sorties bien avant. Et donc, ils ont eu des rencontres charnelles, et ces rencontres charnelles ont laissé des descendants à tel point que tous les descendants de ces rencontres charnelles, nous, les sapiens, on a 2% de notre ADN qui vient de Néandertal. Et donc, on le retrouve pas dans les populations d'Afrique. Ce sont les populations à l'extérieur de l'Afrique qui ont ce 2% reçu de Néandertal. Alors maintenant, ça veut dire quoi 2% d'ADN ? Alors voilà, on va mélanger tout le monde avec tous les pourcentages. Ça veut dire que si vous prenez votre encyclopédie d'ADN qui est faite d'environ 600 000 pages, il y a 2% des pages qui viennent de Néandertal. C'est-à-dire que vous avez un chapitre par là qui vient de Néandertal, un chapitre par là qui vient de Néandertal. Voilà. Mais pour l'essentiel, le livre est quasiment le même.
Alors, qu'est-ce qu'on lui doit à Néandertal ?
Néandertal. Bon, il y a des trucs plutôt, je pense, qui vont être pas mal. On a vu qu'il nous avait permis, par exemple, des meilleures cicatrisations de la peau. Visiblement, il y a des bouts de gènes qu'on a reçus de Néandertal qui permettent une meilleure irrigation du placenta et pas trop de fausses couches. Par contre, il y a des endroits où c'est pas top. Par exemple, avec l'épidémie de Covid, on a vu que des différences génétiques qui entraînent des formes graves de Covid, il y en a certaines qui viennent de Néandertal. Bon, il y en a d'autres qui protègent, qui viennent aussi de Néandertal.
Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a appris aussi avec la génétique, Elvin Leyer, c'est qu'on a compris qu'on pouvait être descendant d'hommes et de femmes qui, eux, ont résisté aux grandes épidémies. On a un lien très fort entre les pathogènes d'un côté et les mutations génétiques de l'autre.
Oui. Nous, on est les descendants des gens qui sont passés à travers plein d'épidémies. C'est ce que je veux dire, non seulement nos ascendants, déjà, ils ont eu le coup de bol de survivre, c'est-à-dire il n'y a pas d'astéroïdes qui leur sont tombés dessus ou quoi que ce soit, et en plus, ils ont résisté aux épidémies. Et il y a une étude récente qui a montré...
Une étude début 2023.
Oui, de début 2023, une étude de mon collègue et ami Luis Quintana Mercy dans son labo, ils ont analysé comme ça l'évolution des gènes des populations en Europe sur 10 000 ans, et ils montrent effectivement que plus le temps passe, mieux on résiste au virus, c'est-à-dire on s'est adapté et qu'il y a eu de la sélection naturelle pour une meilleure résistance au virus. Donc là, ils l'ont vu vraiment dans le détail des données, c'est vraiment
ça,
sympa.
Ça, c'est extraordinaire comme découverte, ça peut être extrêmement utile par la suite.
Tout à fait, parce que ça permet de voir aussi finalement ce qui a été sélectionné, c'est les choses qui sont importantes pour notre corps. Donc par des approches de génétique des populations, on peut voir les bouts du génome qui nous ont permis de nous adapter dans le passé. Et donc on peut voir dans notre génome les bouts d'ADN qui ont été importants dans le passé et qui ont permis de résister à des épidémies. Et du coup, après, on peut étudier ces bouts de génome, et ça, c'est intéressant.
L'épidémiologie, ça n'est pas un domaine qui vous a intéressé ou qui vous intéresserait ?
Ça m'a intéressé à un moment donné, et puis non, moi j'aime vraiment plus l'anthropologie, ça m'amuse plus, quoi. J'ai plutôt envie de savoir si dans le passé, c'est les femmes qui bougeaient d'un village à l'autre ou pas, à quel moment on a commencé ou pas à se marier entre cousins. Par exemple, il y a des travaux sur des sites en Turquie du néolithique où il y a des petites maisons, vous avez des tombes, ils trouvent des restes humains et ils trouvent des hommes, des femmes et des enfants, mais ils sont pas liés biologiquement. C'est-à-dire l'enfant, c'est pas l'enfant du squelette masculin que vous avez trouvé féminin. Donc autrement dit, on est dans des cas où finalement les gens, ils avaient une autre manière de faire famille qui était différente. Et voilà, ça m'interpelle, quoi. Je me dis, tiens, y a quelque chose à voir. Parce que nous, à l'heure actuelle, sur la planète, on a une manière extraordinaire, une diversité de faire famille, mais aussi dans le passé. Dans le passé, peut-être qu'ils faisaient famille de manière complètement différente. Donc oui, ça m'intéresse beaucoup plus que la résistance aux maladies. Mais je trouve ça remarquable et ça m'intéresse. J'ai envie de suivre ces travaux parce que je trouve ça chouette, quoi. Effectivement, on a résisté à plein de maladies.
Alors comment il se mariait, comment il vivait, Denisova ? Est-ce qu'on sait des choses ?
Oui, parce que mais
autant
oui.
Autant on a de l'ADN de Néandertal, autant je crois qu'on a, on porte pas trace de Denisova
non,
en Europe.
Non, en Europe, non. Il faut aller plus à l'est, vers l'Asie de l'Est, où là, effectivement, les gens, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Océanie, ont reçu 2, 3, 4% de leur génome qui vient de Denisova.
Denisova, faut rappeler, il a été découvert dans une grotte en Sibérie.
Oui,
presque là, à côté là où vous étiez,
là où on était, effectivement.
Grâce à une phalange de doigts.
Oui, en fait, ils trouvent une phalange de doigts. Donc, c'est l'équipe de Svante Pebo qui a eu le prix Nobel là,
en 2022.
Ils trouvent, hop, ils l'analysent et ils trouvent, mince, c'est pas un Néandertal, c'est pas un sapiens, c'est quoi ce truc, quoi. Et en fait, c'est Denisova. Après, ils ont eu un bout de dent. Après, il a été analysé encore voilà, par d'autres choses. Et maintenant, on a un ADN à peu près correct. Donc, c'est comme ça. C'est la première fois qu'on trouve une espèce, on va dire, d'humain sans avoir aucune idée de à quoi il ressemble.
Oui, alors on n'a aucune idée de à quoi il ressemble, donc on ne peut pas savoir s'il se mariait et comment il vivait. Ce qu'on sait donc, c'est que ceux qui ont hérité de son génome, ce sont les aborigènes d'Australie et les populations de Papouasie. Comment l'expliquer ?
Eh bien, en fait, c'est mystérieux parce que Denisova, c'est au nord de la Sibérie et on le retrouve plutôt au sud. Donc on pense que l'étendue de Denisova allait jusqu'au sud de l'Asie et qu'ils se sont mélangés au moment où les sapiens sont allés en Australie.
Je crois même qu'on retrouve des traces de Denisova chez les Tibétains et que ce serait même grâce à lui que Sapiens s'est adapté à l'altitude.
Exact. C'est un des mélanges, c'est un exemple de mélange qui est très positif. En fait, des fois, quand on s'est mélangé au cours de notre histoire avec Denisova ou avec Néandertal, eh ben ça a permis de s'adapter très rapidement à des nouveaux environnements. Et donc par croisement, par mélange, les Tibétains ont récupéré les bouts de génome de Denisova qui leur permettent d'être adaptés à l'altitude. C'est génial, quoi. Mais nous aussi, on a des bouts de Néandertal qui nous ont permis de nous adapter à des pathogènes dans le passé, quoi.
Bon, alors ça définit d'où on vient et de quels sont nos cousins entre les chimpanzés d'un côté, l'homme de Néandertal et Denisova de l'autre. Mais ça ne nous dit pas, Evelyne Heyer, ce qui est le trait propre à l'humain, la spécificité de l'humain. Je crois que il y en a sûrement beaucoup plus, mais en tous les cas, j'en ai repéré trois chez vous. Il y a la bipédie, le gros cerveau et le langage complexe. Expliquez-nous.
Oui, alors on a un truc assez extraordinaire quand on regarde comment on vit en tant qu'être humain, c'est que le bébé humain naît immature. Alors, il naît avec seulement 25% de la taille de son cerveau final, et après, il va développer son cerveau. Et donc, une explication courante, je dirais, sur l'évolution de l'homme qui explique ça, c'est que au cours de notre évolution, on est devenu bipède, ça a bloqué le bassin, ok, et du coup, les accouchements ont été plus difficiles, et en parallèle, notre cerveau a augmenté en taille. Et donc, ce paradoxe qu'on dit le paradoxe obstétrical, c'est pas très joli, ce paradoxe par sélection naturelle, ce qui a été choisi, c'est qu'en fait, le jeune bébé humain naît immature. C'est-à-dire qu'on naît avec, donc, comme je vous disais, un cerveau qui est seulement à 25% de sa taille. Et ça, c'est fondamental parce que du coup, la construction de notre cerveau, elle se fait dans la société. Elle se fait dans les relations familiales, dans les relations avec les autres humains. Et c'est pour ça qu'on est fondamentalement un animal social.
Ouais, c'est pour ça aussi que les différences biologiques se construisent au fur et à mesure des cycles de la vie. En fonction de comment on est, de l'âge auquel on devient adulte, c'est ça, du moment où on se reproduit,
c'est ça, c'est inscrit finalement dans l'évolution de l'homme. En grosso modo, les chimpanzés, ils vont se reproduire tous les 4-5 ans, alors que nous, le temps pour faire un enfant mature, c'est 15 voire 20 ans, enfin ça dépend. Donc ça, c'est une spécificité humaine. Et une autre spécificité humaine, moi, qui me fascine, c'est que quand même, les femmes peuvent se reproduire avec des enfants assez proches les uns des autres, et ce qui fait qu'on va avoir des frères et sœurs. Ce qui n'est pas le cas chez, par exemple, les chimpanzés ou les gorilles. En général, la femelle va se reproduire quand le plus jeune enfant est déjà un peu capable de se débrouiller tout seul. Bon, il y a quand même, il y a des enfants qui restent un peu plus longtemps, donc c'est pas aussi systématique, mais quand même, chez les humains, on a cette particularité de faire des familles, d'avoir des oncles, tantes, des frères, des sœurs, etc. Et ça, c'est c'est une spécificité humaine que je trouve fondamentale. Après, en plus, il y a le langage. Alors là, on a la chance.
Les animaux, les arbres, c'est pas le même langage que nous, mais il y a la communication. Alors, qu'est-ce que vous diriez de spécifique à l'homme ?
Ah ben, c'est du langage complexe articulé où on peut combiner des mots pour faire des phrases, combiner des phonèmes pour faire des mots. Donc, on arrive à un niveau d'abstraction qui est beaucoup plus développé. Je sais bien, j'ai plein de collègues primatologues, donc les chimpanzés, les gorilles, etc. Je sais qu'ils communiquent et qu'ils font même des vocalises, etc. Mais
Ils parlent,
mais nous on est arrivé à un niveau de parole qui est beaucoup plus développé. Et donc dans mon idée de culture qui joue sur l'évolution, c'est super important parce que en plus on a un média pour transmettre de la culture à grande échelle, quoi, et à plein de gens. Parce que un chimpanzé, il peut imiter un autre chimpanzé, mais il peut pas recevoir un télégramme d'un chimpanzé de l'autre bout de la forêt qui lui dit si tu cassais les noix comme ça, tu verrais, quoi. Nous, on peut.
Qu'est-ce qui se transmet pas, Evelyne Heyer ?
Qu'est-ce qui se transmet pas ? Ben, l'expérience individuelle, il y a une partie qu'on peut transmettre et il y a une partie qui reste propre à nous.
L'intelligence, la gentillesse, est-ce que ce sont des choses qui se transmettent ?
Ah oui, dans le patrimoine génétique. Ce qui ne se transmet pas génétiquement. Mm. Là, il y a plein de choses qui se transmettent pas génétiquement, ou du moins très peu. Par exemple, l'intelligence, la gentillesse, a priori, il y a pas d'ADN de l'intelligence, d'ADN de la gentillesse. Il y a des facteurs, il y a un petit peu d'ADN qui joue sur l'intelligence. On s'imagine bien que l'intelligence, elle est aussi liée à des connexions dans le cerveau, donc vous pouvez avoir des petites différences d'ADN qui font que des neurones vont plus ou moins vite, etc. Mais c'est très faible par rapport à la part, de la transmission par la culture. L'intelligence, elle est beaucoup plus transmise par la culture, par l'éducation, par l'environnement dans lequel on vit que par la partie ADN inscrite dans notre ADN.
Alors, je vais prendre un autre exemple. Il est des populations, parfois des études sociologiques ou même anthropologiques, ethnologiques aussi, nous le montrent, qui sont globalement, donc à l'échelle d'une population, plus heureuses ou plus malheureuses que d'autres. Est-ce que il existe un gène du bonheur humain? Est-ce qu'une population, puisque c'est culturel, là, c'est-à-dire que des gens vivent en société, ils se sentent bien, ils sont bien, est-ce que ça peut se transmettre?
Alors, ce qui va se transmettre, c'est des petites différences génétiques de cette population par rapport à une autre population pour des choses culturelles, mais pas de bout d'ADN qui code pour le bonheur. Ce qui va faire des différences, ça va être que, par exemple, eux, cette population-là, comme eux, ils ont un fort niveau de bonheur, ils ont peut-être pas trop envie de se mélanger avec la population d'à côté où ils sont moins cool, ouais. Par exemple. Ouais. Et ça va faire des petites différences génétiques entre les populations. Mais dans ces petites différences génétiques, il y en a pas qui codent pour le fait d'avoir du bonheur. En tous les cas, on n'en a pas encore trouvé. Toute la génétique liée autour des comportements, il n'y a pas grand-chose qui tient la route.
D'accord. Ouais.
Il y a pour l'instant, s'il y a quelques petites choses, mais pas beaucoup en général, les études font grand bruit parce que tout le monde cherche ça. Il y a une espèce d'idée de la naturalisation des comportements humains. On aimerait bien avoir une réponse simple. C'est génétique d'être sympa, c'est génétique d'être un criminel, etc. Mais en général, quand ces études sont refaites, elles sont rarement soutenues, quoi. Il y a très peu d'études où vraiment ça a été répété et où vraiment on avait une certitude vraiment biologique. Il y a juste un petit gène impliqué dans la prise de risque où effectivement il y aurait peut-être quelque chose qui a été répété et qui est lié à des niveaux de dopamine, etc.
Mais parce sinon, que de toute façon, il faut bien se dire que c'est sur des dizaines, centaines de milliers d'années, voire parfois des millions d'années que ces évolutions génétiques se passent. C'est pas d'une génération à l'autre, c'est même pas en 100 ans.
C'est des milliers d'années. Oui. Donc là, en plus, je vous dis, ce serait des petits facteurs génétiques qui feraient des différences entre les individus. Mais en plus, pour faire des différences entre populations liées à des facteurs culturels qui, à ce point-là, inscriraient des codages ancrés génétiques des comportements, j'y crois pas une seule seconde.
Alors, il y a une autre question du même ordre, hein, du même acabit, si je puis dire, puisqu'on parle de l'impact de l'environnement et de la culture sur l'évolution biologique de l'être humain. On entend parler, par exemple, de la baisse de la fertilité, de l'impact de l'environnement tout court, c'est-à-dire la façon dont l'être humain agit sur l'environnement, en retour, l'environnement, c'est lié justement avec la baisse de la fertilité, par exemple, agit sur l'évolution biologique de l'être humain. La révolution numérique également, on entend des tas de choses sur la façon dont, dans un certain nombre de milliers d'années, puisque l'évolution génétique est longue, mais notre être pourrait ressembler à quelque chose de très très différent d'aujourd'hui, ne serait-ce que parce que nous utilisons des smartphones, donc un pouce comme ci, une tête penchée comme ça parce qu'on est sur nos ordinateurs, etc. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça, vous y croyez? Ou est-ce que ça aussi, c'est quand même des théories un peu fumeuses aujourd'hui?
Alors, le fait que ce qu'on fait au quotidien, par exemple, on marche pas et du coup nos descendants auront pas de jambes, alors là ça tient pas du tout la route en termes d'évolution. Donc je vous le caricature à fond pour bien comprendre. Non, ça n'est pas possible. Donc c'est pas parce qu'on se muscle du pouce sur son smartphone que nos enfants auront des grands pouces.
Nos enfants non, mais peut-être nos descendants dans des milliards. Non.
Ouf. Non. Alors là, il va falloir des pouces, millions non. et okay. des millions d'années. Donc voilà. Puis il faut pour qu'une mutation, d'abord, il faut qu'elle change quelque chose. La plupart des mutations, elles ne changent rien. De temps en temps, il y en a une, elle change quelque chose. Donc, imaginons, on a une mutation qui fasse un pouce un peu plus long. OK? Mais après, il faut qu'elle soit sélectionnée par sélection naturelle. Donc, il faut que la personne qui a le pouce un peu plus long ait plus de descendants que celui qui n'a pas le pouce aussi long. Donc, voilà, il en faut des conditions. Par contre, sur les problèmes de fertilité, oui, on voit des facteurs génétiques. Il y a effectivement une étude qui avait été faite au Danemark et qui montre que effectivement il y a des variations génétiques du chromosome Y qui sont plus sensibles aux polluants que d'autres. Donc effectivement, selon votre bagage génétique, vous allez être plus ou moins sensible à l'environnement en termes de polluants.
Ça veut dire quand même, Evelyne Heyer, que l'être humain continue d'évoluer?
Oui, il y a des mutations sans arrêt qui apparaissent. Donc, on est tous porteurs de nouvelles mutations, une 70 à peu près. Et du coup, la plupart, bon, elles feront rien, mais peut-être que dans l'eau, de temps en temps, il y en aura une qui permettra de faire quelque chose de très chouette pour l'être humain. Donc, on évolue comme tout être vivant évolue.
Comment voyez-vous l'être humain, vous, à votre échelle, à votre niveau, l'être humain du futur, c'est-à-dire de quel type de mutation on aurait vraiment besoin pour aller mieux, pour être mieux aujourd'hui? Une mutation qui ferait que l'être humain est un peu plus évolué, disons, qu'il ne l'est aujourd'hui.
Ouais, moi j'aimerais bien surtout une mutation qui supprime, greedy, c'est-à-dire
l'avidité.
L'avidité.
Vous y croyez? C'est possible, ça?
Non, ça n'existe pas, mais vous me dites de rêver, alors
bah
moi
oui,
je rêve.
C'est l'avidité que vous aimeriez supprimer.
Et alors moi je rêve que c'est l'avidité, parce que c'est l'avidité qui nous amène à détruire la planète. Et c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont déjà beaucoup et qui veulent encore plus, et sans aucun frein, sans aucun arrêt. Et c'est bien ça qui amène à détruire la planète, parce qu'on pourrait très bien vivre 10 milliards d'humains tout à fait bien s'il n'y avait pas ce souhait de possession sans fin et qui entraîne une destruction qui touche tout le monde.
Attention à l'eugénisme.
Hein. Non, mais malheureusement...
plus sérieusement, il y a quelque chose qu'on observe là, à l'œil nu, des changements qu'on observe à l'œil nu, me semble-t-il, c'est la taille de l'être humain. On grandit, non?
Oui, mais ça a l'air d'être fini. Ah bon, on a grandi, mais il paraît que maintenant on a
pris
atteint
10
un plateau.
À 20 centimètres en 100 ans quand même.
Oui, mais on a atteint un plateau. En fait, là, c'est pas génétique, c'est l'environnement. C'est parce qu'on est dans des meilleurs environnements, on a plus à manger, meilleure hygiène, etc. Et donc effectivement, il y a eu une croissance de la taille des humains un peu partout sur la planète et qui maintenant aurait atteint un plateau, comme si on avait atteint entre guillemets notre potentiel génétique maximal, quoi. Et alors ça va continuer, mais à des échelles beaucoup plus lentes. C'est-à-dire qu'en général, comme les gens un peu plus grands, on se reproduise un peu plus que ceux qui sont un peu moins grands, dans la plupart des sociétés où ça a été regardé, à long terme, on risque d'augmenter encore, mais ça risque d'être plutôt des peut-être un centimètre en 10 000 ans. Donc on le verra pas, ça va pas faire grand-chose, mais effectivement, on a changé de stature.
Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Evelyne Heyer. On se retrouve demain et demain, nous irons faire un tour au Musée de l'Homme puisque vous avez été à l'origine de la rénovation du Musée de l'Homme. Ça vous a pris 6 ans quand même, donc on va plonger dans cette aventure du Musée de l'Homme. Un Musée de l'Homme au nom de la lutte contre le racisme. À demain.
Bonsoir.
C'était À Voix Nue. Chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Florent Layani, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application de Radio France.